Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Pour vous présenter, vous êtes historien, médiéviste, archiviste, paléographe, spécialiste des emblèmes, des systèmes symboliques et de l'héraldique. Vous avez publié près de 80 livres consacrés entre autres à l'histoire des animaux, des symboles et des couleurs de l'Antiquité à nos jours. Vous avez été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de 1983 à 2002. Vous avez été professeur d'histoire de la symbolique occidentale à la Sorbonne de 2002 à 2017. J'en oublie certainement, vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2012 et vous avez reçu de nombreuses distinctions. Je m'arrête là pour vous présenter, ça oui. Vous va? Vous avez obtenu un doctorat en histoire en 1972 et votre premier livre a été édité en 1976, La vie quotidienne en France et en Angleterre, au temps des chevaliers de la table ronde. C'était paru chez Hachette. Et c'est d'ailleurs le thème de votre dernier livre, Dernière visite chez le roi Arthur, histoire d'un premier livre aux éditions du Seuil, où vous revenez sur l'histoire de ce premier livre. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce retour en arrière et cette plongée dans à la fois l'égo-histoire et l'histoire, car ce livre est aussi un réajustement des connaissances?
Oui, ce livre a presque 50 ans, il est paru en 1976, mais je l'avais écrit 2-3 ans auparavant, et mon intention première était de le remettre à flot, si je puis dire, puisque beaucoup de travaux étaient parus qui avaient transformé notre connaissance de la vie quotidienne au XIIe et XIIIe siècle, c'est cette époque qui se cache derrière cette appellation « au temps des chevaliers de la table ronde ». Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était un trop gros travail. Je m'étais tenu au courant de tout ce qui était paru, bien sûr, mais la masse d'informations nouvelles était telle que, rapidement, j'ai transformé mon projet et je me suis dit qu'au lieu de réécrire mon livre ou de le mettre à jour, ce serait plus intéressant de raconter comment j'avais écrit ce premier livre, alors que j'étais presque encore étudiant ou à peine jeune chercheur. Et qu'est-ce que c'était pour un jeune chercheur, il y a un demi-siècle, de publier un premier livre, les difficultés rencontrées, les différentes étapes de la réalisation, la façon dont ce premier livre a été reçu. Et puis c'était pour moi aussi l'occasion de comparer le passé, donc il y a une cinquantaine d'années, et l'actualité, faire œuvre d'historiographie. Qu'est-ce que c'était que la vulgarisation historique il y a un demi-siècle, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? À l'époque, on disait pour ce type de livre qui s'adressait à un public cultivé, disons, pas le grand public, pas le public universitaire, mais un peu entre les deux, on disait haute vulgarisation. L'expression nous semble un peu ridicule, mais elle était courante à l'époque. Et donc, c'est un livre qui raconte un peu ma jeunesse aussi, mais surtout qui a des ambitions de comparaison entre ce qu'était la recherche en histoire et la diffusion du savoir, donc il y a une cinquantaine d'années, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Justement, ça permet d'aller aussi sur ces nombreux thèmes transversaux sur lesquels vous avez travaillé et publié, fait des recherches sur l'histoire des couleurs, de l'héraldique, des symboles, des animaux. Ces thèmes qui n'étaient pas forcément pris au sérieux quand vous vous y êtes attelé. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque ?
Oui, c'est un peu honteux à dire, parce que ça n'était pas du tout dans l'air du temps à l'époque, mais mon moteur principal, je l'avoue aujourd'hui, était de me faire plaisir. Et donc, pour mes principaux sujets de recherche, il fallait que je trouve des thèmes qui ne m'ennuient pas, qui me fassent plaisir. Et j'étais peut-être un peu infantile, mais en tout cas, moi, ce que j'aimais, c'était les animaux et les couleurs, comme un petit enfant. Donc, j'en ai fait mes terrains de recherche, alors que ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Pendant toute ma carrière d'enseignant, d'ailleurs, j'ai conseillé à mes étudiants de se faire plaisir dans leur recherche et de ne pas accepter un sujet de mémoire ou de thèse dont, dès le départ, ils sentaient que cela allait les ennuyer, et donc choisir des terrains sur lesquels on sent que l'on va être à l'aise, heureux. Le rôle de l'enseignant est de dire « attention, là, il n'y a pas de document, attention, ici, un tel chercheur, là-bas, au bout de l'Europe, travaille sur le même sujet ». Bon, mais tout est possible aujourd'hui, donc autant en profiter. Ça n'était pas le cas, donc, il y a un demi-siècle, et avec d'un côté l'histoire des animaux et de l'autre l'histoire des couleurs, mes premiers travaux n'avaient pas l'air très sérieux. Il y avait de la frivolité ou de la petite histoire. L'animal, par exemple, qui aujourd'hui est un thème de très grande actualité dans les sciences humaines, c'était la petite histoire chez les historiens. L'histoire universitaire n'en parlait jamais. Les couleurs, c'était pire encore. Ça semblait soit impossible de construire une histoire des couleurs, soit d'un manque de sérieux total, même en histoire de l'art.
Est-ce que vous pensiez que vous étiez quand même influencé par des courants qui arrivaient dans les années 70, comme l'histoire des mentalités ?
Oui, non seulement j'étais influencé, mais j'en ai profité. Le directeur de l'école des Chartes, qui était un homme du 19e siècle, qui pratiquait un type d'histoire très très archaïque, a eu ce mot merveilleux d'un brave homme. Il m'a dit « Oh, ce que vous faites, Pastoureau, ça intéresserait beaucoup Jacques Le Goff ». Donc, un des représentants de la nouvelle histoire, un très grand historien. Alors, je me suis dit, oui, mais je suis trop timide pour aller trouver Jacques Le Goff. Mais cet homme a eu une deuxième phrase merveilleuse, « Je vais prendre rendez-vous pour vous ». Alors là, c'était magnifique, je n'avais rien à faire. Jacques Le Goff m'a reçu, il m'a encouragé, il a été extrêmement bienveillant, il est devenu mon maître et mon ami, et par lui, puis par Georges Duby un peu plus tard, bref, l'histoire dite des mentalités à l'époque, l'histoire des sensibilités, l'histoire culturelle d'une manière plus large, est devenue à la mode, et tout ce que je faisais s'engouffrait parfaitement dans ce type d'histoire. Donc, ce qui était un léger handicap au départ, faire des choses peut-être un peu trop nouvelles ou trop sur les marges, est devenu rapidement un avantage, ce qui m'a valu d'une part d'être élu très jeune professeur d'université et de l'autre de faire absolument ce que je voulais pendant un demi-siècle de recherche et d'enseignement. Donc je suis un immense privilégié. Ça n'est pas si fréquent de pouvoir faire dans sa carrière ce que l'on voudrait faire au départ. Moi j'ai réussi.
Est-ce que vous pensez que vous avez du coup ouvert de nouvelles portes ?
Dans certains domaines, je pense que oui. Dans d'autres, peut-être pas. Mais l'histoire des animaux, par exemple, qui était abandonnée à la petite histoire, je pense que j'ai contribué, avec d'autres, pour d'autres périodes de l'histoire, à en faire une discipline à part entière dans le monde de la recherche et de l'université. L'histoire des couleurs, qui n'existait quasiment pas, tout était à faire, ce qui m'a obligé à inventer mes méthodes et mes problématiques et à être solitaire pendant assez longtemps. Je n'avais personne avec qui échanger, quelqu'un pour me dire « tu te trompes, attention », etc. Donc ça m'a forcé à m'ouvrir à d'autres disciplines qui n'étaient pas les miennes, comme l'histoire de la chimie, l'histoire des sciences d'une manière générale. Moi qui suis littéraire de formation, latiniste même, j'ai dû améliorer mon bagage en chimie et en physique, tout seul, en autodidacte. Je peux livrer un témoignage d'ailleurs. Faire des progrès en chimie quand on est tout seul, c'est possible. Faire des progrès en physique, ça me semble impossible. Il faut être aidé.
Mais justement, à travers tout ça, est-ce que vous pensez avoir apporté un nouveau genre historique ou est-ce que vous vous sentez appartenir à une historiographie particulière, une lignée en quelque sorte, ou est-ce que vous considérez avoir créé votre propre historiographie quand vous regardez tout cela avec le recul ?
Je sens que je suis bénéficiaire de deux héritages. D'une part, l'érudition, je ne le cache pas, je viens de l'école des Chartes, qui est quand même un temple de l'érudition, et j'y ai appris toutes les techniques de l'histoire savante telles qu'on la faisait au 19e et au 20e siècle. Donc je suis latiniste, je suis philologue, je suis paléographe, donc je sais me débrouiller avec les langues et les documents anciens. Mais en même temps, je me suis ouvert très jeune à l'histoire qu'on appelait des mentalités ou des sensibilités, grâce notamment à Jacques Le Goff, que je remercie. Donc j'ai un double héritage. Évidemment, j'ai été un grand privilégié de ce point de vue-là. Mais par rapport aux objets d'études, en effet, je pense que du côté de l'histoire des couleurs, j'ai créé quelque chose. Il me semble que je laisse moi-même un héritage, même si je n'ai pas trouvé tellement de disciples, parce que travailler sur l'histoire des couleurs implique d'être à l'aise sur des terrains documentaires très variés, de ne pas s'enfermer dans telle ou telle période. Bref, ça n'est pas facile. Du côté de l'histoire des animaux, rapidement, j'ai été rattrapé par des types de recherches un peu cousines des miennes. Je n'étais plus tout seul, si je puis dire. J'ai pu échanger notamment avec Robert Delors, qui lui venait de l'histoire économique, mais qui s'intéressait également, à cause de sa grande thèse sur les fourrures au Moyen-Âge, aux animaux à fourrure, puis aux animaux en général. Donc nous étions deux parmi les médiévistes, et puis du côté de l'histoire des religions, du côté surtout de l'ethnologie et de l'anthropologie, nous avions des collègues qui nous ont rejoints. J'ai participé pendant très longtemps à un séminaire collectif au Muséum d'Histoire Naturelle, où nous échangions beaucoup entre spécialistes de disciplines diverses. Donc pour les animaux, je n'étais pas tout seul. Pour les couleurs, j'ai longtemps été tout seul.
J'aimerais bien revenir sur une notion dont vous avez parlé dans votre dernier livre, c'est du flair. Vous dites que le flair est important pour un historien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples où justement ça a été pour vous un point de bascule, le flair ?
Le flair, c'est difficile à définir et c'est difficile à expliquer et à montrer comment il peut être à l'œuvre. Mais un chercheur a plus ou moins de flair. Pourquoi il sent l'histoire ? Pourquoi il sent mieux telle période de l'histoire que telle autre ? Dans mon cas, par exemple, moi qui suis historien du Moyen-Âge, je sens mieux le Moyen-Âge central que le haut Moyen-Âge ou le bas Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de connaissances, mais ça veut dire que je suis chez moi et je sens les documents, me semble-t-il, que ce soit des textes ou des images, alors que pour le XVIIe siècle, par exemple, je n'ai pas de flair, je n'ai pas d'intuition. J'ai un bagage solide, j'espère, je sais où chercher, mais je suis moins guidé par mes intuitions profondes. Ça peut concerner, par exemple, un texte. Pour moi, ce sera surtout du latin, où je sens que le choix de tel passage ou de tel mot fait écho à tel autre passage qui se situe avant ou après. Je ne saurais pas rien bien expliquer pourquoi, mais je le sens. Et ensuite, je peux essayer de le prouver. Un chercheur profane ou qui est spécialiste d'autres périodes ou d'autres types de documents n'aura pas ce flair. De même, devant les images, telle image dans un manuscrit enluminé me fait penser à telle autre image que j'ai vue il y a 5 ans dans un autre manuscrit enluminé dans une autre bibliothèque à l'autre bout de l'Europe, etc. Ça relève de la mémoire et du flair. Oui, j'ai la chance d'avoir une grande mémoire. Je pense que ça facilite beaucoup les choses. Par exemple, quand je fais un cours, une conférence, même dans un milieu très très solennel, je suis absolument incapable de lire un texte. Donc je parle avec quelques notes devant moi, mais que je consulte pas beaucoup. Donc ça m'a valu quelques reproches, parce qu'il y a des milieux académiques, notamment en Allemagne et aux États-Unis, où si on ne lit pas un texte, on est un paresseux, on n'a rien préparé. Or moi, j'ai toujours appris, et c'est le conseil que je donne à mes étudiants, qu'il fallait mieux parler que lire. Pour l'auditoire, c'est beaucoup plus facile à suivre lorsque l'orateur parle, plutôt que lorsqu'il lit un texte à toute vitesse, parfois dans une langue étrangère. Il faut parler.
Comment vous gérez la question aussi de la fiabilité des sources et des témoignages, en particulier quand vous travaillez sur des documents anciens ou fragmentaires ?
Je ne perds jamais de vue que ces documents ne livrent pas des informations incontestables et qu'il faut toujours être prudent, douter, accepter un témoignage avec prudence et le comparer avec d'autres témoignages. Donc ne jamais isoler un document, toujours travailler sur des séries, faire des comparaisons entre les textes, les images, les traditions orales, les faits de langue et de lexique. Tout ça, ces documents, ça se complète, ça se contredit parfois. Il faut l'accepter et surtout, quand on ne sait pas, avouer qu'on ne sait pas, plutôt que de proposer quelque chose qui est artificiel et extrêmement fragile. Je pense qu'un bon chercheur non seulement doit douter, mais quand il ne comprend pas, quand il ne sait pas, il doit le dire. En soi, c'est un document qu'il livre à ses successeurs.
Comment voyez-vous la relation entre l'histoire et les autres disciplines, telles que la sociologie, l'anthropologie, le droit, la littérature ? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire, et vous, par rapport à vos travaux, certainement que oui, d'avoir une approche pluridisciplinaire en histoire, que c'est important ?
c'est absolument nécessaire. Et toutes les recherches que je conduis sont transdisciplinaires, m'obligent à m'aventurer sur des terrains voisins, de collaborer avec des spécialistes d'autres disciplines. Mais je pense que ce doit être vrai de toutes les questions historiques, plus ou moins ouvertes sur d'autres champs de la recherche, mais aucune ne s'enferme sur elle-même, heureusement. Malheureusement, nos gouvernants, nos autorités de tutelle ne le comprennent pas toujours. Par exemple, on construit encore des bibliothèques en Europe où on répartit les champs du savoir en différentes salles. À la Bibliothèque nationale de France, à Paris, par exemple, il y a la salle des lettres, la salle du droit, la salle d'histoire de l'art, la salle des sciences, etc. Moi, quand je travaille sur les couleurs, j'ai besoin, dans la même demi-heure, d'un ouvrage de philologie, d'un ouvrage d'histoire de la peinture, d'un ouvrage de chimie, etc. Alors, ça, les usuels sont dans trois salles différentes, avec interdiction de déplacer un usuel d'une salle à l'autre. Donc, on construit les bibliothèques comme des supermarchés. Dans l'ancienne Bibliothèque nationale, tout était dans la même salle, et pour moi, c'était extrêmement fructueux. Je pouvais prendre des ouvrages de disciplines complètement différentes dans la même heure ou la même demi-heure. Ça n'est plus tout à fait possible. Il me semble qu'il y a une spécialisation à outrance qui est une régression du savoir. Et je pense que l'outil informatique, loin d'ouvrir, au contraire, réduit les champs du possible. Peut-être que je me trompe, mais dans les pratiques institutionnelles de la recherche, dans les sciences humaines, c'est désormais comme ça, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît que les vraies découvertes se font au carrefour des disciplines, mais institutionnellement, pour être candidat à un poste ou à un budget quelconque, les tutelles nous demandent d'être très clairs sur la spécialité qui est la nôtre, avoir une étiquette bien lisible. On va vous dire, mais vous êtes historien ou vous êtes historien de l'art? Vous êtes spécialiste de l'Antiquité ou du Moyen-Âge? On ne peut plus être à cheval alors que c'est le fait d'être à cheval qui, justement, est fructueux. Et des amis et collègues scientifiques me disent que c'est pire chez eux dans les sciences dures. En physique, on est spécialiste de la physique de ceci ou de cela autre, et on ne peut pas être à cheval, et les crédits qui sont beaucoup plus importants que chez nous dépendent de ces spécialisations étroites. Ça me semble une régression considérable par rapport à il y a une cinquantaine d'années.
Comment vous regardez une structure comme l'Atelier des Histoires ?
Je le regarde avec beaucoup de sympathie et de bienveillance, puisqu'il s'agit de fédérer des pratiques et des curiosités qui toutes portent sur l'histoire, qui sont dispersées à la fois intellectuellement, géographiquement et institutionnellement. Donc c'est bien de regrouper, d'être ouvert. Je pense qu'il y a vraiment une unité des problématiques historiques, donc c'est bien d'échanger, de se rencontrer sur un campus comme celui de Lausanne, qui a cette particularité quand même de rendre plus facile que d'autres campus la transdisciplinarité. En plus, c'est un paradis, le campus de Lausanne. Donc je vois cela d'un très bon œil. Il y a plusieurs façons de faire de l'histoire, notamment des pratiques verticales et des pratiques horizontales. On peut travailler, et c'est ce qu'encouragent les institutions, de manière verticale, c'est-à-dire qu'on va regrouper dans une même unité tous les historiens de l'art, qu'ils travaillent sur l'art du paléolithique ou sur l'art le plus contemporain, ils seront dans une même unité de recherche. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si vous organisez un colloque Le Cheval de Lascaux à Picasso, il n'y a pas de problématique possible, on accouchera de pas grand-chose. Je préfère parfois les sujets horizontaux, c'est-à-dire Le Cheval au XIIIe siècle, réunissant des philologues, des historiens de l'équitation, des historiens de la chasse, des historiens de l'art, des spécialistes de médecine vétérinaire, etc. Une coupe horizontale, mais tout problème confondu, souvent c'est plus fructueux que la verticalité. De même, les comparaisons avec des aires culturelles complètement autres, des cultures différentes de la culture européenne ou des cultures européennes. Bien sûr, c'est excitant du point de vue intellectuel, c'est politiquement correct aujourd'hui, mais c'est d'une grande fragilité parce qu'on commet beaucoup d'anachronismes et assez souvent on accouche de pas grand-chose. Et pourtant, c'est très très bien vu aujourd'hui de nos tutelles parce que ça participe de la paix instaurée à l'échelle de la planète et de la tolérance nécessaire vis-à-vis des autres sociétés, bien sûr. Mais du côté de la recherche, c'est bien de progresser par saut progressif, si je puis dire. Faisons déjà des comparaisons avec les voisins, puis les voisins des voisins, avant d'aller très très loin.
Vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Lausanne depuis les années 90, c'est ça?
Je crois que c'est 1996.
Pourquoi? À quelle occasion? Racontez-nous.
Eh bien, j'ai été invité ponctuellement, ici ou là, à faire des conférences. Puis j'ai été associé, en tant que collègue universitaire, disons, avec l'équipe des médiévistes lausannois, puis des historiens de l'art lausannois. J'ai fait des cours, d'une part, avec Agostino Paravicini, de l'autre avec Philippe Junot, deux amis, l'un spécialiste d'histoire médiévale, l'autre d'histoire de l'art moderne et contemporain. Donc j'ai trouvé mes habitudes, j'ai toujours d'ailleurs considéré que j'avais de bien meilleurs étudiants à Lausanne qu'à Paris. C'est pas que les Lausannois, ou les Italiens d'ailleurs étaient assez nombreux dans mon assistance, savaient plus de choses, mais ce qu'ils savaient, c'était plus solidement acquis. Chez les Français, il y a toujours un vernis, tout est un petit peu flottant. En Suisse, c'est vrai aussi en Allemagne, ce qu'on sait, on le sait mieux, c'est plus solide. Ça ne veut pas dire qu'on sait davantage de choses, mais c'est quand même plus solide. Il y a moins de frimes aussi. Mais bon, les systèmes universitaires sont différents. Donc, j'ai été associé au fil des années, à partir des années 80, à certaines formes d'enseignement et de manifestations de recherche, colloques par exemple, avec des amis lausannois. Et puis, ça m'a valu donc de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Lausanne, à une époque où c'était donné avec une certaine parcimonie. Je me souviens qu'il y avait une réception assez solennelle. J'avais une toge où le jaune était présent puisque c'était la couleur de la faculté des lettres. Mais à côté de moi, il y avait un juriste qui était en rouge et un médecin en vert. Donc pour l'historien des couleurs, merci. C'était un rituel intéressant. Voilà, j'en garde un très très bon souvenir et je suis très fier de ce titre. Et peu à peu, donc, j'ai continué à fréquenter l'Université de Lausanne, et puis pas seulement l'université, mais aussi les musées lausannois. Je fais souvent des conférences à la Fondation de l'Ermitage, par exemple. Bref, je suis devenu une sorte de lausannois d'adoption.
Merci beaucoup, c'est un joli mot de la fin. Donc je rappelle que votre dernier livre, c'est « Dernière visite chez le roi Arthur », histoire d'un premier livre qui est paru aux éditions du Seuil. Et puis plus d'informations sur l'atelier des histoires, eh bien, c'est sur le site de l'UNIL, donc l'Université de Lausanne. Merci infiniment, Michel Pastoureau.
Merci de votre accueil et au revoir.